Aucune exubérance ou luxuriance dans cette émission Urbaflore, encore que Lisa soit dans la place, tout baigne. Non, aujourd'hui, on ne va pas baigner dans le végétal tropical, mais bien dans le tropisme végétal. En effet, il ne vous aura pas échappé que nous, habitants de la Terre, sommes des êtres sensés, sensoriels ou sensibles. Bref, nous sommes pourvus de sens, et les plantes n'échappent pas à ce constat. De là à dire qu'elles frissonnent ou grelottent à l'approche de l'hiver, c'est autre chose. Mais elles perçoivent en tout cas tout un tas de stimuli. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble, maintenant.
On est tous les deux dans la place. Jérôme Garcia, bonjour.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Pour cette émission Urbaflore. Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, où tu es chargé de conservation. Aujourd'hui, on va parler donc tropisme. Alors, quels différents tropismes chez les plantes? On va en découvrir... certains tropismes, je vais te dire là en avant-première, phototropisme, géotropisme, gravitopisme, on va apprendre plein de choses. Bref, on commence par un peu d'étymologie, comme chacune de ces émissions. Jérôme, étymologie, tropisme.
Alors, le mot tropisme vient de tropos, donc ce sont du grec, du coup, qui signifie direction, le mouvement, le changement ou tourner. Isme ou ismos, c'est un suffixe qui désigne une action ou un phénomène, un processus ou une caractéristique. Le tropisme, c'est donc le mouvement ou l'orientation d'un organe végétal, la racine, la tige, la feuille ou la fleur, dans une direction donnée, en réponse à un stimulus.
On va donc parler tournesol.
Par exemple, ça fait effectivement partie des tropismes. Mais ce n'est pas le plus évident, ce tropisme-là de la fleur qui s'oriente en fonction du soleil, on appelle ça une nastie. Mais je voulais aborder plutôt les formes propres de tropisme, on en compte 7 à 8. Chez les végétaux, le plus évident, c'est le phototropisme, c'est la réponse d'un végétal à la lumière.
Le tournesol.
Alors, le tournesol, oui, mais non. Là, je suis plus... Le tournesol, c'est une plante qui est déjà, dont l'organogénèse, dont la constitution des organes est déjà orientée. Moi, je parle plutôt de végétaux en construction, en devenir. Donc, plus de plantules. Sont des cellules végétales d'une tige, en général, qui vont se développer plus rapidement à la lumière qu'à l'ombre, et qui va entraîner une courbure en fait, du végétal vers la lumière, vers la source lumineuse, pour pouvoir absorber davantage de lumière pour la photosynthèse. Ensuite, un autre tropisme, ça va être lié à la gravité. On appelle ça le géotropisme, mais plus récemment, le gravitropisme. Ce sont les racines qui peuvent avoir un géotropisme positif. Elles vont s'enfoncer dans la terre en direction du centre de la terre lié à la gravité pour fixer la plante au sol et lui permettre de trouver de l'eau. Et au contraire, on va avoir les tiges qui ont un géotropisme négatif, c'est-à-dire qu'elles sont à l'inverse du champ gravitationnel en fait. Donc elles vont pousser vers le haut pour être plus exposées à la lumière. On a également l'hydrotropisme ou l'hygrotropisme qui sont la réponse des racines à l'humidité, en cas de sécheresse ou de manque d'eau dans le sol, les racines vont se diriger vers les zones les plus humides pour absorber davantage d'eau et pour pouvoir se développer correctement. On a ensuite le tigmotropisme ou aptotropisme. C'est des mots un petit peu compliqués, qui à chaque fois viennent du grec, mais qu'on peut retrouver dans la langue courante. Bon, pour aptotropisme, je suis désolé, j'en ai pas. Mais qui est une réponse à un stimuli de contact. En général, la plante, la tige, lorsqu'elle est en contact d'un support, c'est valable pour les plantes qui font des vrilles, ou certaines tiges vont s'enrouler. Toutes les cellules qui sont en contact vont faire que la plante s'enroule autour de la tige. C'est le cas typique du liseron, par exemple, ou de la vigne, quand les tiges sont en contact avec un support, ou quand les vrilles de la vigne sont en contact avec un support, ça va s'entourer à ce support pour pouvoir fixer la plante.
Le jasmin, la passiflore.
Voilà, tout à fait. Il existe également le thermotropisme. Bon, là, ça se comprend assez facilement, thermo comme thermomètre. C'est une réponse du végétal à des températures. Donc, la plante va croître ou s'orienter en fonction des variations de température. avec des racines ou des tiges qui vont s'orienter vers des zones plus chaudes ou plus froides, permettant une augmentation de leur croissance, par exemple. On a également le rhéotropisme, qui est pas très évident à comprendre, mais en fait, le végétal va s'orienter ou croître en fonction d'un mouvement d'eau. Donc, ça va plutôt être les plantes forcément aquatiques ou qui se développent sur les berges et dont les racines sont dans l'eau. Et les racines vont en fait s'orienter face au courant en fonction du flux d'eau pour optimiser, là encore, l'ancrage ou l'accès à l'eau et aux nutriments. On a également le chimiotropisme. Chimio, chimie, c'est lié aux substances chimiques qu'on va trouver dans l'environnement et en général dans le sol. Les racines, par exemple, vont s'orienter vers des zones où il y a davantage de nutriments et pour justement, encore une fois, optimiser leur croissance. Donc, les racines sont capables de détecter les zones où il y a un peu plus d'azote ou de potassium qui vont l'aider à pousser. Et enfin, ce dont on a parlé tout à l'heure, les nasties, ce n'est pas toujours considéré en fait comme un tropisme. Ce sont des mouvements de la plante qui sont liés à des stimulus externes, mais qui sont indépendants de la direction de ce stimulus. J'avais un exemple pour une plante qui est plutôt tropicale, qui d'ailleurs peut être envahissante sous les tropiques, c'est la sensitive. C'est une plante, à partir du moment où vous touchez les feuilles se referment d'un coup. Voilà, donc peu importe le stimulus, c'est une réaction à une agression, mais que vous touchiez la feuille dessus ou dessous, la réaction sera la même. Et comme tu l'expliquais, le tournesol qui va s'orienter en fonction du soleil, ou certaines plantes qui vont se refermer la nuit, ça fait partie des mouvements de nastie. Voilà pour un bref panel, ou non, plutôt un panel assez détaillé des tropismes chez les végétaux, de ces mouvements de plantes, souvent liées à de la croissance de ces végétaux.
Oui, parce que sinon, il y a les adaptations. Là, on parlait... tu disais adaptation à une agression, je pense aussi. Il y a plein de plantes envahissantes, là, avec des fleurs violettes qui ont des cosses, que quand elles sont bien mûres, on les touche et boum, le truc, il explose.
Oui. Ça fait référence, effectivement, à une émission dont j'avais déjà parlé sur les végétaux en mouvement.
Tout à fait.
Et effectivement, c'est les impatiences de l'Himalaya ou les balsamines qui ont cette capacité de projection des graines dès qu'on les touche. Voilà, je pense qu'on pourrait qualifier ça justement de nastie. C'est une réaction à un stimulus, mais qui n'est pas forcément plus orientée. Hein. Ça peut être un courant d'air ou une sécheresse à un moment donné, ou le fait de le toucher qui fait que le fruit explose et disperse ses graines. Oui, tout à fait.
Et comme on adore les mots nouveaux dans cette émission Urbaflore, on parlait par exemple rhéotropisme, donc la réponse à un mouvement d'eau, on peut dire que la plante est rhéotropiste
Ou fait preuve de rhéotropisme. Je ne sais pas si on peut
les nastiques,
mettre un adjectif derrière ces noms, effectivement. J'ai rarement vu ça, une plante géotropique.
Ah, ouais. Je comptais briller à côté de la machine
pas.
À café. Écoutons Ménélik, tout baigne, en attendant de parler de la découverte donc de certains tropismes, donc le phototropisme, géotropisme, gravitropisme. On va quand même pouvoir continuer à briller auprès de la machine à café, puis on va rejoindre tous ces tropismes avec ce programme Urbaflore, dont on parle chaque mois dans cette émission, l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées, de Midi-Pyrénées.
Une question se pose à moi, à savoir si j'ai le choix sur le tempo ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai évacué pour la journée toute forme de soucis, je me la roule debout, disons plutôt assis. Dans la foule, je perçois le rire d'une dame. Entre les gens, je rame pour m'approcher de la femme. Waouh, est-ce que tu as vu, ai-je la berlue, une telle beauté même voilée ne passait pas inaperçue. Y'a du monde dans la place.
Ouais.
Casser la voix, casser la voix.
Ouais.
Évidemment, sans ces parties, la vie n'a pas de sens. La tribu en formation, toujours dans la transe. Laisse ton corps me parler et continuons l'ambiance. Oni, sois qui mal y pense. Didma, t'es dans la place.
Tout bien,
Osmose est dans la place.
Touben,
Battle est dans la place.
Touben,
Ménélik est là aussi.
Touben,
Bambi est dans la place.
Touben,
Lesiens sont dans la place.
Touben,
Étienne est dans la place.
Touben,
Touben. mauvais, même pour les gens qui se plaignent. Aujourd'hui personne ne revendique dans le procès de Ménélique. De la vie à ce jour, nous ne ferons aucune critique. Je glande sur la leda, s'il te plaît, passe-moi du coca. Non, pas d'embrouille, non, je ne veux pas de coca. Juste goûter de ce jus que jalousement tu conserves. Avec toi je converse, afin qu'on se serve. Mettons donc de côté les dagues qui tiennent les flingues. Regarde donc tes beautés, je t'invite à faire la bringue. Donc suis-moi, on ira, on verra, on vaincra. Je ne sais pas où on va, mais qui vivra verra. Oh non, 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 je suis pas une idole. Sur le damier de Paul, tous les gars de Paul m'épaule. Ainsi nous voici partis, tranquille. Tu l'as dit l'ami, accompagné des bonnes. Fait que sur la piste on rallie. Jouy c'est dans la place,
tout bien.
Zahar est dans la place,
tout bien.
Arlini,
tout bien.
Armand est là aussi,
tout bien.
Jones est dans la place,
tout bien.
Petit lui est dans la place,
tout bien.
Willy Root est dans la place,
tout bien.
Tout bien, même pour les gens qui se plaignent. Ça se passe, ça se passe.
Sur le boulevard,
on se donne rencard. Le jour ou tard, le soir. Pokémon, je reprends, et ceux-ci sont faux semblants. Je saisis au vol la perche que tu me tends. Un groupe que rien n'arrête, des peaux qui se complètent. Mais la fête serait pas parfaite sans quelques demoiselles bien faites.
Ça se passe comme ça.
Mais je ne consomme pas rapidement, je déguste le plat. Le jeu en vaut la chandelle, stimule mes papilles. Les mignonnes m'émoutillent, à leur vue je vacille. Elle ondule, je la sens, tous mes sens en éveil. Tout baigne dans l'eau, dans l'huile sous le soleil. Elles ont toutes de belles plastiques, je m'arme de mon plastique. On m'appelle pas pour rien l'homme qui tombe à pic. La fête est éphémère, mais au fond on s'en fout. Qu'importe le temps, la nuit est à nous. Bluesy est dans la place,
tout baigne.
Gino est dans la place,
tout baigne.
Sick est dans la place,
tout baigne.
Arch est là aussi,
tout baigne.
Naipi est dans la place,
tout baigne.
Logistique est dans la place,
tout baigne.
La leda est là,
tout baigne.
Tout baigne, même pour les gens qui se plaignent.
De retour dans l'émission Urbaflore, donc vous êtes en compagnie de moi-même, Jérôme Garcia, chargé de conservation au Conservatoire Botanique National des Pyrénées de Midi-Pyrénées, avec cette émission animée par Lisa.
Bah non, c'est toi qui l'anime
cette moi.
Émission, bon, moi je ne sers à rien. Je pose des questions naïves. On parle tropisme aujourd'hui.
C'est ça, on parle tropisme, on a défini ce que cela signifiait, on a cité les principaux tropismes chez les végétaux, et on va voir comment ces tropismes ont été découverts. Je vais faire un focus en particulier sur le phototropisme et le gravitropisme. Le phototropisme, les premiers constats qui ont été faits...
Donc c'est l'adaptation avec la lumière. Hein.
C'est ça, pardon, oui. Le phototropisme, c'est la réponse d'un végétal à la lumière. Donc c'est Darwin, hein, dans les années 1880, et son fils d'ailleurs, qui ont étudié ce qu'on appelle le coléoptile. C'est la première feuille, c'est lorsque le germe d'une graminée, de l'avoine en particulier, se développe, voilà, il développe un coléoptile. Il s'est rendu compte que ce coléoptile se courbait en fonction de la lumière et qu'à partir du moment où on mettait un cache sur ces germes de blé, et en mettant juste un petit point lumineux, ils se sont rendus compte que tous les coléoptiles convergeaient vers ce point lumineux. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, tiens, la lumière a un effet sur la croissance du végétal. Et ils sont allés un petit peu plus loin. Ils ont coupé le bout de cet apex de tige, hein, de cette extrémité qui se développait. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune réaction du végétal. Donc ils se sont dit, tiens, cette extrémité-là de tige, elle a une influence sur le mouvement de cette plantule. À travers d'autres expériences, ils ont montré que, du coup, cet apex recevait l'information lumineuse et la transmettait via une substance ou quelque chose le long de la tige qui provoquait sa courbure ensuite. Il faudra attendre les travaux de Boysen et Jensen en 1913. Ils ont fait une expérience assez intéressante où ils ont mis une lamelle de gélose, hein, c'est une espèce de gel, une espèce de gélatine qui est riche en eau. Ils ont coupé ce coléoptile, cette tige, en deux. Ils ont mis la lamelle entre les deux. Ils l'ont exposée à la lumière, cette tige, et ils se sont rendus compte que la courbure se faisait toujours, alors qu'ils avaient coupé la tige en deux. Ils ont poursuivi cette étude en mettant des sortes de lamelles isolantes, c'est-à-dire ils ont mis, enfin ils n'avaient pas de plastique à l'époque, mais ils ont mis quelque chose qui séparait physiquement en deux. Ils ont mis ce qu'on appelle du mica pour voir quelle était la nature en fait de ce signal, de cette substance. Donc ils ont conclu que c'était pas électrique, mais que c'était une substance qui était hydrosoluble, puisque la gélose permettait de faire passer une information liquide, on va dire. Ils en ont su un petit peu plus sur ce phénomène-là de courbure liée à une substance particulière qui n'a toujours pas été détectée ou définie en 1926 par Wendt. Lui, il a placé des apex, donc cette extrémité qui réagit à la lumière, il en a coupé plein, il les a mis sur de la gélose. La substance, elle s'est diffusée dans la gélose, et lorsque cette gélose, il l'a appliquée à une tige qui était placée dans l'obscurité, la tige s'est courbée. Et donc il s'est dit, la substance, je l'ai récupérée dans la gélose, et en l'appliquant contre la tige, il y a un effet, l'effet qui est attendu, l'effet de courbure, en fait, qui s'est fait du côté où il y avait la gélose. Donc la substance, elle entraîne ce mouvement-là, et c'est une substance physique, quoi. Et puis, c'est en 1931, c'est Cole et Hagen-Smith qui ont identifié cette substance et qu'ils ont appelé l'auxine. Voilà. Voilà pour la petite histoire de la découverte du phototropisme qui, par l'intermédiaire donc, de cette substance qui est l'auxine, va entraîner la courbure. La courbure, en fait, globalement, c'est l'élongation et la multiplication des cellules à l'opposé de la lumière qui fait que ça oriente la tige du côté de la lumière. Mmh. Et pour le deuxième tropisme que j'ai trouvé intéressant, donc le gravitropisme, c'est Knight en 1806 qui a eu l'idée, un peu étrange, mais de placer des plantes sur une roue, à l'horizontale ou à la verticale, peu importe. Et il a fait tourner plus ou moins rapidement cette roue, ce qui fait que les plantes ont perdu la notion de gravité. Et les racines, en fait, ont poussé vers l'extérieur de la roue, puisque la gravité, c'est comme si elle était à l'extérieur de la roue. J'ai pas un exemple là comme ça, mais quand vous prenez un poids, comme les lancers de poids, vous tournez très vite sur vous-même, et à un moment donné, vous lâchez le poids va partir vers l'extérieur, les racines ont le même comportement. Et à l'inverse, les tiges vont se développer vers l'intérieur, donc elles ont une croissance qui est centripète. Voilà, donc ça, première expérience liée au gravitropisme et à l'effet de la gravité sur les végétaux. Ensuite, c'est Knoll, en 1892, qui, en fait, on avait identifié chez un certain nombre d'invertébrés, donc c'est des petits animaux qui n'ont pas d'os et de vertèbres, qu'il existait des particules qui se déplacent sous l'effet de la pesanteur et qui permet de savoir où est le ciel et où est la terre, quoi, grosso modo. Et il s'est dit, peut-être qu'on a la même chose chez les plantes. Donc c'était la première idée de la raison qui conditionnait la croissance en fonction de la gravité, la croissance des plantes en fonction de la gravité. Et c'est Nomek, en 1900, qui va identifier ces substances-là, en fait, ces particules denses, ce sont ce qu'on appelle des amyloplastes ou des grains d'amidon, parfois ça peut être aussi des cristaux, qu'on va retrouver dans certaines parties de la racine, à l'extrémité de la, la racine en pleine croissance, qu'on appelle la coiffe. Il y a ces petits grains d'amidon qui sont présents et qui vont dire, grosso modo, à la racine, la gravité, elle fait aller par là, il faut pousser par là. Voilà. Et du coup, on a fait le lien aussi toujours avec l'auxine, puisque l'auxine, c'était cette substance qui entraînait le développement et la croissance des cellules. Cette auxine va entraîner la courbure de la racine en fonction de la position de ces petits grains d'amidon dans les racines, dans la coiffe racinaire. Voilà. Et puis, il y a des expériences beaucoup plus récentes qui ont été réalisées en apesanteur sur des végétaux et qui ont permis d'avoir des choses assez, assez loufoques, en fait, où, grosso modo, quand on mettait des petits pois à germer dans l'espace, la racine elle se développait de façon très désordonnée. Et dès qu'on mettait en place une, micro, une microgravité hein, artificielle, la racine reprenait sa croissance en fonction de, du champ de gravité. Voilà, pour au moins ces deux exemples de photo et gravitropisme. Et puis pour finir, pour faire un lien avec Urbaflore, les tropismes, en fait, c'est ce qui va conditionner la, la répartition des végétaux dans certains habitats. On va avoir des espèces d'ombre ou de lumière en fonction de leur tolérance et de leur développement et leur exigence pardon, à cette lumière. Ces tropismes aussi vont conditionner la germination des graines, le développement des individus, des bulbes et également des fleurs. Le tropisme le plus populaire que tout écolier, jardinier ou amoureux des plantes d'intérieur aura expérimenté, c'est bien le phototropisme. On a systématiquement une plante qui va pousser vers la lumière. Hein, quand vous êtes derrière une baie vitrée ou plus ou moins éloignée, vous voyez comment la plante se penche, s'oriente, voire s'étiole pour pouvoir avoir accès à cette lumière. Et ben, si elle n'en a pas assez, elle meurt, quoi, tout simplement. On a du coup, on peut faire le parallèle avec des prairies qui vont se refermer progressivement avec des plantes qui sont dans ces prairies, qui sont en pleine exposition au soleil. Et à partir du moment où il va y avoir des arbustes qui vont s'installer, ces plantes vont plus ou moins chercher la lumière. Et si elles ne parviennent pas à avoir suffisamment de lumière, elles vont s'étioler et disparaître. Cet enfrichement finalement empêche le phototropisme. Après le phototropisme, finalement, ça peut être un atout lorsqu'on cherche à lutter contre certaines espèces. Alors, par exemple, moi au potager, il y a des indésirables, comme du liseron qui va se développer. Ce que je mets, c'est un carton ou un paillage qui fait que la plante n'a plus accès à la lumière, ne peut plus faire jouer son phototropisme positif et du coup, elle va s'étioler et disparaître. On peut s'en servir après pour lutter contre les plantes, certaines plantes exotiques envahissantes. De la même façon, on va recouvrir un milieu. C'est une expérimentation qui a été menée d'ailleurs sur Cossade pour lutter contre la renouée du Japon qui se développait sur, sur le parc de l'Alaire. Il y a eu une technique qui a consisté à bâcher la surface du sol sur laquelle cette renouée se développait pour la contenir et éviter qu'elle, qu'elle perdure, quoi. Voilà. Et puis les tropismes ont également joué un rôle important sur la capacité de résilience, hein, la capacité de d'une population à se maintenir dans un milieu. Si on a une prairie ou un verger qui est labouré, dans laquelle on trouvait des bulbes de tulipes ou d'orchidées, par exemple, certains bulbes vont se retrouver la, la tête en bas. Et parfois sous plusieurs centimètres de terre, et dans ces conditions, on ne sait pas comment la plante va réagir en fonction de ses tropismes pour développer ses racines et ses feuilles si elles ont la tête en bas. Voilà. Donc on se pose la question de savoir si les bulbes survivent, et donc ça fait partie aussi des études que, qu'on peut mener dans ce genre de situation. Et enfin, lorsqu'on réalise des tests de germination, ce sont les tropismes qui vont conditionner la levée de la dormance des graines, par exemple, ou l'orientation des germes et des racines en fonction de la présence de lumière ou d'obscurité qui peuvent inhiber ou favoriser la germination. Et puis pour le petit mot de la fin, c'est un petit résumé, rien de poétique cette fois-ci. Le mouvement végétal, il a été abordé dans une précédente émission. Et on a vu ici un aperçu un peu plus précis de la capacité des plantes à s'adapter à une condition fixe mais pas immobile donc, une réaction à la lumière, à la gravité, à l'eau, à la chaleur, aux substances toxiques ou nutritives. Le végétal use de stratégies fascinantes pour vivre. Encore une leçon que les plantes nous enseignent sur l'art de ralentir, de rester posé, statique, et de s'ouvrir au monde en pleine conscience.
Cette précédente émission, on peut la réécouter en podcast sur le site de cfmradio.fr, comme celle-là, autour des tropismes végétaux dans cette émission donc Urbaflore, émission qu'anime tous les mois Jérôme Garcia, chargé de conservation au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Merci beaucoup Jérôme.
Merci Lisa, merci pour votre écoute.